France Culture. Les midis de culture. Marie Laborie.
Pendant un an, elle a été ses yeux à Gaza. Sépide Farsi dédie son film à Fatma Hassona, cette jeune femme de 24 ans qui lui a raconté sa vie sous les bombes. Cinq mois après la mort de Fatma, le film sort sur les écrans. Sépide Farsi sera mon invité à partir de 13h. Mais tout de suite, on fait le plein de bandes dessinées avec trois albums au programme de notre plateau critique du jour. Le très surprenant Flatland de Danny Collateral, le délicat Flous artistiques de Dash Show et le sensible J'aime bien le train, on a le temps de regarder de Yann Kebi. Vous écoutez les Midis de Culture et c'est une saine occupation. Et pour parler de ces trois objets, aujourd'hui, je salue Joseph Gosne, directeur adjoint de la rédaction de Madame Figaro. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Victor Massé de l'Épinay, rédacteur en chef adjoint du Pèlerin. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux.
Faites l'expérience suivante. Posez une pièce de 10 ou 20 centimes sur une table. Ou prenez-la entre le pouce et l'index. Penchez-vous au-dessus. Vous voyez un cercle. Bien. Maintenant, élevez lentement la main qui tient la pièce jusqu'à ce que la tranche soit à la même hauteur que vos yeux. Vous ne voyez plus qu'une ligne droite. C'est ainsi que nous nous distinguons les uns les autres au plat pays. Qu'il soit triangle, carré, cercle ou d'une autre figure, l'autre n'est pour nous qu'une ligne droite. C'est, si l'on peut dire, notre seule perspective.
Voilà la vie au plat pays. Vous venez d'entendre une adaptation radiophonique de Flatland, roman inclassable et pourtant classique aujourd'hui, écrit en 1884 par l'anglais Edwin Abbott. Les vrais amateurs de science-fiction et de science tout court d'ailleurs connaissent sans doute. Eh bien, ce roman qui nous raconte l'histoire d'un carré vivant à Flatland, un pays en deux dimensions, ce roman donc est adapté aujourd'hui par Danny Collateral, dessinateur italien installé à Paris. Il y est donc question de formes géométriques, de perspectives et de rencontres. On commence par quelques mots en guise d'amuse-gueule, Victor Massé de l'Épinay.
Eh bien, c'est un livre déconcertant, intimidant, mais très intelligent et amusant.
Joseph Gosne.
Je dirais à peu près la même chose. Enfin, je dirais surtout que c'est un livre, c'est une lecture assez ardue, à plein d'égards, mais c'est quand même une lecture assez joyeuse et surtout très stimulante parce qu'elle pose beaucoup de questions sur ce que c'est que la lecture, justement.
Alors, Victor Massé de l'Épinay, avant de développer ces adjectifs que vous nous avez servis, est-ce qu'on peut présenter un peu l'objet en lui-même parce qu'il est très très particulier?
Oui, l'objet, c'est un petit livre, c'est plus petit qu'un album classique de bande dessinée, je l'ai pas dans les mains, mais ça fait à peu près la moitié, la taille d'un A5 à peu près, avec un dos toilé, c'est un livre très élégant, des éditions Delcourt, avec des couleurs très franches, une police très belle pour le titre et le nom de l'auteur sur la couverture. Et puis quand on le feuillette, au premier abord, on se dit, oh, ça va être quand même compliqué de lire ça. Pendant la lecture, on se dit, il y a des choses écrites très petites, mais j'ai dû changer plusieurs fois de place pour lire, parce que la lumière était pas bonne, parce que je suis myope et je sais pas s'il faut enlever mes lunettes ou les remettre pour lire de près. Mais bon, ça c'est pour l'objet. Mais sinon, pourquoi on se dit waouh et pourquoi j'ai dit c'est intimidant? Parce que ce que vous l'avez peut-être dit, Danny Collateral, il est architecte. Il habite à Paris depuis donc une quinzaine d'années. Mais il a réalisé ce livre uniquement avec des outils, des logiciels d'architecture. Et donc, il n'y a pas à proprement parler de dessin, il y a des formes géométriques à longueur de page, dans des cases, dans des carrés assez réguliers. Alors, on a déjà vu des bandes dessinées écrites avec des logiciels, ou dessinées avec des logiciels de bandes dessinées. Il y avait Lucas Wojciechowski qui avait fait plusieurs albums qui sont sortis en France chez Ça et Là. Il y avait en particulier aussi Martin Panchaud qui a eu le Fauve d'Or il y a quelques années avec La couleur des choses. Donc, il y a d'une certaine façon démocratiser ça, on sait qu'on peut lire ça, même le grand public pas initié, parce que Martin Panchaud c'était intimidant, mais tous ceux qui l'ont lu se sont dit mais en fait ça se lit très bien, on rentre dans l'histoire. Sauf que ces deux livres-là c'était des choses dessinées avec des logiciels d'archi, mais c'était du dessin, c'était des personnages, c'était des décors, tandis que là ce sont des formes géométriques qui sont des formes géométriques et qui parlent à d'autres formes géométriques, donc ça rend quand même la chose un peu ardue a priori. Mais c'était intéressant ce que vous nous avez fait écouter, parce que voilà, c'est beaucoup d'explications et le dessin permet très bien d'expliquer ce que Edwin Abbott a voulu faire lui-même, cet auteur anglais à la fin du 19e. Donc il avait mis des dessins dans son livre, parce que quelquefois pour se figurer des représentations géométriques, on a besoin de passer par le dessin, et là Danny Collateral fait ça, et donc on rentre de façon très plaisante. Le début, on se dit, ah, c'est très intelligent, on comprend plein de choses sur la 2D, la 3D. Et puis ça se complexifie au fur et à mesure, et puis il y a une critique sociale qui...
Parce qu'il y a des règles dans ces sociétés, voilà.
Voilà, il y a plein de règles dans ces sociétés, alors je vais laisser peut-être Joseph nous les raconter un peu, mais c'est un livre qui se lit quand même avec un certain effort, mais on dira peut-être pourquoi, c'est quand même très, très plaisant, très amusant.
Oui, Joseph Gons, vous avez utilisé le mot « joyeux » quand même.
Oui, c'est assez joyeux parce que voir toutes ces formes géométriques se parler, voir toute la maîtrise qui est derrière et même le rapport du langage dans la discussion. En fait, c'est vraiment une discussion entre deux êtres, en tout cas deux formes, une forme qui est celle du plat pays et une autre qui vient d'une autre dimension. Donc les explications sont de cet ordre-là et il y a de l'humour, il y a un peu de distance, il y a un peu d'ironie souvent. Donc il y a quelque chose d'assez joyeux. Mais pour atteindre cette joie, il faut quand même en passer par une lecture assez complexe, je trouve, à mon sens, parce qu'elle elle est portée par plusieurs questions. C'est-à-dire, dès le départ, en fait, au départ, quand on regarde l'objet, on se dit, tiens, on dirait un livre de Chris Ware. Parce que je trouve que ça ressemble vraiment à ce que Chris Ware a fait à un certain moment, c'est-à-dire des livres comme ça, très avec beaucoup de détails, beaucoup de géométrie, des choses assez complexes à lire, à aller chercher. Mais sauf que Chris Ware, c'est vraiment de la bande dessinée. C'est-à-dire, c'était du dessin avec une histoire et des personnages. Donc, dès qu'on regarde ce livre, on dit, tiens, c'est du Chris Ware. Ah, mais non, c'est pas du Chris Ware. Et donc, on se pose des questions immédiatement. Est-ce que c'est une bande dessinée? Est-ce que c'est un précis d'architecture? Parce qu'il y a quand même beaucoup ça. Très vite, on est dans ça. Est-ce que c'est la mise en dessin, ou en tout cas en concept d'un livre historique? Et qu'est-ce que ce livre historique a encore à nous raconter sur aujourd'hui? Donc, il y a quand même un certain nombre de questions qui, à mon sens, déterminent très, très vite la lecture. Et donc, du coup, cette lecture, elle est comme un peu, comment dire, c'est un peu un parcours d'obstacles, je trouve. Et le début, même si effectivement le début, le début est plutôt, comme ça, dans ce qu'on a entendu, c'est un peu l'explication de base. Comment est-ce qu'on regarde un objet quand on change de perspective, ben, ce n'est plus le même objet. Tout le livre, effectivement, est construit sur ça. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas terminé à mon sens. En tout cas, dans le début, c'est ça qui est assez étrange. On a un peu du mal à avancer dans la lecture. Quand on se donne du mal, et même quand on dépasse les explications ou tous les concepts autour des sociétés qui se racontent, qui s'expliquent, etc., quand on arrive plutôt vers une explication de fin, vers la fin du livre, notamment les chapitres que Danny Collateral rajoute en fait au livre original, et qu'on rentre dans une autre, dans d'autres explications, dans d'autres fantasmes en fait, dans d'autres fantasmes de dimension. Je trouve qu'on est davantage dans une forme de modernité et que là, il se situe dans ce que la bande dessinée a souvent cherché à faire, c'est-à-dire se dépasser elle-même, dépasser son cadre de planche et aller explorer d'autres dimensions. C'est un classique dans les comics, notamment. Il y a beaucoup cette histoire de quelle est la quatrième dimension, quelle est la cinquième dimension, etc. Et là, je trouve que vers la fin, il saisit quelque chose qui dépasse peut-être ce statut un peu figé de qu'était le livre d'Abbott finalement un siècle et demi plus tard.
Victor Massé-Lépiné.
Oui, le livre d'Abbott, en effet, vous avez utilisé le mot perspective, c'est comment changer de perspective, comment quand on vit en une dimension, c'est-à-dire qu'on n'est qu'un point, on peut concevoir qu'il existe une deuxième dimension. En fait, il y a quelque chose de presque impossible. Donc, il y a bien une deuxième dimension dans laquelle vit ce carré. Et quelqu'un arrive d'une troisième dimension en lui disant,
mais
si on change de perspective, on peut extruder une forme plate, et en faire un volume. Et évidemment, le livre se termine, ce carré se prend de passion pour ses logiques géométriques et dit, Et s'il y avait une quatrième dimension et la sphère qui est dans la troisième dimension, on dit, non, il n'y a pas d'autre dimension. Mais si, il faudrait aussi changer de perspective. Il y a quelque chose d'assez intelligent là-dedans. Abbott, il était aussi théologien. Alors, il y a une dimension de critique sociale dans son œuvre. Il décrit cette société en 2D qui est, en gros, c'est l'Angleterre victorienne, mais qui est un peu totalitaire. Les femmes sont de simples traits. Les ouvriers sont des...
Il y a toute une hiérarchie.
Plus on a de côté, plus on est haut dans la hiérarchie sociale. Tout ça est assez intelligent. Mais peut-être qu'Abbott ouvre l'idée, il me semble, vers une quatrième dimension qui ne serait pas que géométrique, mais qui serait notre dimension relationnelle, peut-être la dimension de la transcendance, peut-être des questions comme ça. Sur la forme, je trouve que c'est très intelligent, en effet, ce que Danny Collateral a ajouté, parce qu'aujourd'hui, la quatrième dimension, c'est une réalité, je ne me demandais pas d'expliquer, mais on sait que ça existe. Et c'est... En revanche, je trouve que presque il n'est pas allé assez loin dans l'objet livre, puisque les pages restent en deux dimensions, Et il nous figure tout ça très bien avec de la 3D. Mais je trouve qu'il aurait pu peut-être, comme j'ai pensé aussi à Marc-Antoine Mathieu en lisant ce livre-là, jouer sur, enfin, avoir des pages trouées, avoir des pages qui nous obligent à retourner notre livre, dessiner sur la tranche. Enfin, on aurait pu imaginer un objet beaucoup plus bizarre. Bon, l'objet marche comme ça, il est très... Mais c'est un livre très... Beaucoup pour les matheux quand même.
Oui, c'est sûr, c'est un livre.
Un tout petit.
Il y a une séquence que je trouve quand même assez réussie, c'est-à-dire que dans l'évolution des pages, même si on ne lit pas, on passe les pages, on arrive vers des choses avec de la couleur, des dimensions qui ont l'air d'exploser. De ce point de vue-là, c'est quand même un objet très réussi.
Flatland, aventure fantastique à plusieurs dimensions de Danny Collateral, c'est chez Delcourt. Si c'est flou, c'est qu'il y a un loup, disait Martine Aubry, mais dans l'album de Dash Show, toutes et tous connaissent un moment de flou, une indécision, une confusion, voire une perte totale de repères. Quel costume choisir, quelles lunettes, quel boulot, qu'est-ce qu'il faut changer dans sa vie? L'auteur américain tire un fil après l'autre, mais chaque personnage réapparaît dans la vie d'un autre. Chaque récit s'imbrique et répond à un autre, une sorte de valse des vies banales et uniques à la fois. Et le titre, c'est donc Flou. Artistique au pluriel. Il est traduit de l'anglais par Basile Begri. Un avis rapide, Joseph Coste.
Je trouve que c'est un très bon roman graphique et qui encore pose la question de ce que c'est qu'un roman graphique en 2025. Dachau fait des livres depuis une quinzaine d'années et je trouve que c'est peut-être un de ses plus réussis. En tout cas, c'est un de ceux que j'ai pris le plus de plaisir à lire.
Victor Massé de l'Épinay.
Mais je vais dire un objet déconcertant, intimidant au premier abord, mais finalement très sensible et dont la lecture est très intelligent aussi.
Alors Joseph Gosne, qu'est-ce qu'un roman graphique en 2025? La question doit se poser.
C'est-à-dire que tout est roman graphique et plus rien ne l'est, enfin en quelque sorte. Mais c'est intéressant parce que le roman graphique a commencé comme un objet un peu commercial, c'est-à-dire que c'était des bandes dessinées, des comics qu'on mettait en librairie dans un format un peu plus luxueux. C'est un format qui a pris beaucoup son d'ampleur dans les années 90 et 2000. Et Dachau est arrivé à la fin de ce mouvement-là. C'est-à-dire que quand il sort son premier livre en 2010, on est une génération après les Chris Ware, Daniel Clowes, Charles Burns, qui ont donné un peu leur lettre de noblesse à ce genre-là. Donc le genre, petit à petit, s'est un peu épuisé, mais lui a toujours continué à essayer de faire des livres un peu ambitieux. Et celui-là, rien qu'en le regardant, on se dit que c'est un livre assez ambitieux. C'est un pavé. Ce n'est pas édité chez n'importe qui aux États-Unis, c'est la New York Review of Books qui édite ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a derrière un projet intellectuel assez ambitieux, assez exigeant. On n'est pas chez Fantagraphics, qui est aussi un très grand éditeur de bande dessinée, mais où ça pourrait aller dans plusieurs sens. Là, on est vraiment dans quelque chose d'assez exigeant, de littéraire. Effectivement, Dachau mène ça d'une façon plutôt très bien tenu. Il est dans un minimalisme de son trait, c'est-à-dire que chaque page, chaque planche est composée de 4 cases. C'est le cas à 90% des pages du livre. Le trait est assez simplifié, il n'y a pas beaucoup de décors, on est vraiment dans avec les personnages, dans les interactions, dans une modestie du dessin qui permet de passer comme ça très vite d'un moment à l'autre, parce que comme il n'y a pas beaucoup de décors, finalement tout est dans ce flou. Et en fait, ce flou, moi je trouve qu'il est plutôt dans ça, dans la disparition du décor, dans la disparition des semblants, et de rester dans les personnages. Et comme ça, on peut passer très vite de l'un à l'autre, et ça, je trouve que ça marche bien, et que pour un livre aussi gargantuesque en quelque sorte, finalement cette économie des moyens fait qu'on lit très bien, très vite, et qu'on s'intéresse et qu'on se dit tiens, ça revient, ça revient pas. Les personnages, même si on a l'impression qu'ils sont un peu tous pareils, finalement, non. Je trouve qu'il y a, c'est une vraie réussite de lecture. C'est vraiment dans ce sens-là, un vrai roman graphique. C'est-à-dire que son écriture, elle est à la fois dans le texte, évidemment, mais aussi vraiment dans le trait. Et le trait sert vraiment à ça de guide et de fil dans les pages et dans les lectures.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, alors sur le fond, c'est une bande dessinée en effet sur le flou, sur l'indécision. Les personnages sont pas tous pareils, mais ils sont tous américains, ils sont tous de la classe moyenne supérieure, ils sont tous éduqués et ils sont de notre époque complètement, c'est-à-dire ces gens qui savent pas, qui s'ennuient, qui savent pas ce qu'ils font, qui dépriment, qui remettent en question perpétuellement leurs choix. De ce point de vue-là, strictement, alors c'est des récits un peu enchâssés les uns dans dans les autres, comme des poupées russes. On n'a pas beaucoup décrit le procédé de narration. C'est-à-dire qu'un personnage, on suit un personnage, puis il en croise un autre, il lui dit, mais toi, t'as déjà eu une histoire comme ça, et hop, une histoire s'enchaîne ou s'enchasse dans la première. Et ça s'enchasse comme ça.
Vous prenez des risques, là.
Presque à l'infini, et on se demande si à un moment les choses vont se refermer. Donc, bon, ça, c'est un procédé qui marche. Sur le fond, je trouve que il y a quelque chose de pas nouveau, quoi, en fait. Il y a eu des bandes dessinées américaines comme ça, depuis une vingtaine d'années, très intelligentes, très sensibles sur notre époque, et puis il y a des séries télé à l'infini sur.
Vous pensez à une série,
ces choses-là.
Oui, absolument.
Mais ce qui est intéressant, en effet, c'est quand même quelque chose dans la forme qui est a priori un peu sèche, un peu austère, hein, Joseph. Un peu décrit ce trait. Quand on ouvre, on se dit, bon, c'est pas très bien dessiné. C'est le premier.
Il n'y a pas de couleur.
Il n'y a pas de couleur. Il y a un découpage qui est absolument monotone, enfin régulier, mais donc monotone. Et à mon avis, la première page, ou les deux premières pages du livre, disent beaucoup de choses. On voit un homme qui sort, qui rentre dans une voiture qui est dessinée comme on dessine une voiture dans les années 80, toute carrée, comme la dessinerait un enfant. Donc en effet, le soleil a un rond, mais pas vraiment fini. Donc il y a quelque chose, en effet, les décors ne comptent pas, c'est le personnage qui sort. Et alors, ce gars qui sort, il a un appel inconnu. Et c'est la fin de la première page, appel inconnu, première case de la deuxième page, il refuse. Donc, c'est tout de suite, ça, sur le fond, cette idée, non, je ne veux pas d'inconnu, je ne veux pas... Et il prend le volant et il dit, mais ce chemin, je l'ai déjà fait 1000 fois, qu'est-ce que je m'ennuie, qu'est-ce que c'est nul de faire toujours la même chose, tiens, je vais fermer les yeux pour qu'il arrive quelque chose au volant. Donc, cette espèce de contradiction entre je ne veux pas qu'il arrive de nouveau et en même temps, qu'est-ce que je m'ennuie dans ma vie quotidienne. Mais alors, tout ça est... ce qui est très amusant dans ces pages, c'est la façon dont le mouvement est dessiné. Je disais que c'est maladroit, on voit le pouce qui bouge pour refuser l'appel, et c'est un peu figé, presque un peu, j'allais dire, idiot comme façon de représenter le mouvement. Puis ensuite, on voit la roue de la voiture qui avance.
On dirait qu'elle est crevée, d'ailleurs.
Et la roue, on dirait qu'elle est crevée, elle a une... En fait, tout ce qui est en mouvement dans ce livre est dessiné d'une façon figée et déformée. Mmh. Et il y a quelque chose là-dedans qui se joue avec le flou. Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui... Et si on transpose ça aux êtres, quand on voit quelqu'un et qu'on le fige, quand on voit quelqu'un maintenant, il y a quelque chose qui est déformé. En fait, la réalité, elle est en mouvement, mais comment représenter le mouvement en bande dessinée? Comment sentir le mouvement d'une personne qui est toujours... dans ses réflexions, alors que nous, on a tendance à dire, bon, voilà, elle est comme ça. Donc, il y a quelque chose de très intelligent, mais qui se donne pas quand même à voir immédiatement. Moi, je trouve que c'est pas une bande dessinée facile à appréhender quand on n'est pas... moi, il a fallu que je réfléchisse un peu pour me dire, mais qu'est-ce qui est... Parce que sinon, c'est...
Où est-ce qu'on va, en fait?
Voilà, où est-ce qu'on va, et est-ce que c'est pas un peu ennuyeux? Il y a un ou deux moments où je me suis dit, bon, ça va, ça n'avance pas trop. Après, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont plu.
Joseph Gosne?
Je trouve que... Alors, d'une part, oui, les personnages ont tous l'air crevés, donc c'est pas forcément un truc, c'est pas forcément très emballant.
Voilà.
C'est pas très emballant. Mais une fois qu'on a compris qu'il passe de l'un à l'autre et qu'il va raconter quelque chose et qu'on est dans une forme de cercle ou alors de labyrinthe comme ça en cercle, quelque chose vraiment s'installe dans la lecture et on s'est dit, oui, tiens, j'ai envie de voir où est-ce que ça va me mener et comment, et aussi, d'une façon presque très pragmatique, comment est-ce qu'il va s'en sortir? Mm-hmm. Et je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Et pour revenir sur cette idée de roman graphique, une des grandes questions du roman graphique, c'est le réalisme. C'est-à-dire, c'est ce rapport au-delà du comics, au-delà du cartoon, le rapport avec le réel, la réalité, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on raconte. Et une des grandes questions, ça a toujours été comment on représente le temps, la vieillesse. Ça, c'est vraiment une des grandes questions, de voir des personnages qui vieillissent. Et là, je trouve, et c'est quelque chose qui est devenu, je trouve, compliqué à raconter. À montrer aujourd'hui, raconter le futur, raconter le... Il y a quelque chose, je trouve, qui s'est un peu perdu, en tout cas qu'on n'a plus forcément envie de lire comme ça. Et là, je trouve qu'il trouve une astuce, en tout cas un nouveau mécanisme qui consiste à montrer les gens tels qu'ils sont, effectivement figés, mais figés les uns avec les autres et les uns entrelacés avec les autres. Et en faisant ça, il arrive à aborder, parfois de façon peut-être un peu superficielle, un peu rapide, beaucoup de thèmes qui sont des thèmes d'époque, des thèmes d'aujourd'hui, et notamment des thèmes liés à la sexualité, au genre, à la représentation des uns et des autres. Et même s'il le fait de façon très épisodique comme ça, il y a quelque chose qui a l'air d'englober notre contemporain. Et de ce point de vue-là, moi, ça m'a plutôt intéressé.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, je trouve qu'il sent quand même bien l'époque, mais sur le fond, il y a quelque chose d'un peu déprimant dans l'époque qu'il dépeint, qui est la nôtre. Et il y a entre autres une réflexion sur le langage. Il y a souvent des gens qui vont voir des psys, qui essayent de dire quelque chose. Et cette question du langage, elle est présente dans notre société. Elle est vieille. Comment dire quelque chose de neuf? Comment dire quelque chose de vrai? Et plusieurs personnages en arrivent à une sorte, comme s'ils se passaient le mot sans se connaître, à une sorte de glossolalie, je crois qu'on, ils disent areux, enfin, ils disent glaglou, des choses qui ne veulent plus rien dire. Et ça a l'air de les rendre très heureux, ça a l'air de les émouvoir. Comme si cette espèce de retour à l'enfance primordiale était une sorte de consolation. Et moi, ce que j'ai vu dans ce livre, c'est beaucoup de personnages qui ont un besoin infini de consolation, mais de dire, je veux être moi, chacun de mes choix. Et finalement, même si c'est toujours par le dialogue qu'ils se racontent, ont assez peu de relations les uns avec les autres, sont très auto-centrés, très narcissiques. Peut-être que c'est très bien vu sur notre époque, peut-être que c'est pas très original, comme je le disais, mais c'est, dans le fond, un peu déprimant, cette société liquide et qui...
C'est assez violent. C'est une société assez violente, mais je trouve que ce qui fonctionne bien avec ce livre, comme au sens vraiment presque de Deleuze, c'est que c'est un vrai manuel. C'est-à-dire, lisez-le, et il y a tellement de situations d'incompréhension et de blocage que vous pouvez y trouver des choses. Presque des solutions, en tout cas des exemples ou des contre-exemples.
Flous artistiques de David Shaw, c'est sorti chez Dargo et traduit de l'anglais par Basile Begri. Donc c'est bien Dash Show, pardon, j'ai écrit David, et donc j'ai lu David. Et le dernier des albums du jour est un voyage, vous l'entendez, un voyage en train, le titre est parfaitement informatif. J'aime bien le train, on a le temps de regarder. Dans ce train, on ne parle pas, on regarde, chaque page est l'image subjective issue du regard de celui qui dessine, Yann Kebby. On commence par des ciels colorés vus par la fenêtre, puis des noirs et blancs. Ici, une famille assise dans un carré. Là, les gouttes de pluie qui glissent. Une main sur un accoudoir. Des images qu'on a tous en tête, enregistrées au rythme hors du temps de nos voyages en train. Un avis rapide, Victor Massé de l'Épinay.
Ça vous ennuie si je dis que c'est un album déconcertant, intimidant, au premier abord, mais très beau, très sensible.
Non, je pense que c'est tout à fait justifié. Ça vous ressemble, Joseph Gosnell.
Eh bien, je crois que c'est pas un livre, je crois que c'est un disque.
Ah, bah vous êtes super aujourd'hui.
il faut que Joseph commence.
Alors Joseph commence, c'est un disque.
Non, c'est, en fait, quand vous recevez cet objet, c'est un objet carré qui fait quasiment la taille d'un album en vinyle. Il fait pas tout à fait, il fait pas 30 sur 30, mais c'est à peu près ça. C'est 29-32, c'est un grand livre. Moi, je l'ai placé à côté de mes vinyles, et il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire, quand vous le feuilletez, vous voyez qu'il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'explication. C'est comme un disque, en fait. Il faut quasiment lire comme on écouterait morceau après morceau, regarder page après page, pour arriver à voir s'il y a une séquence, et quelle est cette séquence, que raconte cette séquence, vers où ça nous mène. Et de ce point de vue-là, je trouve que on peut pas dire que c'est une bande dessinée, on peut dire que c'est pas non plus un livre d'artiste. Il y a une séquence, donc on peut se retrouver dans cette idée de la bande dessinée. Mais c'est assez déconcertant. Hein. C'est vraiment déconcertant. Mais c'est très,
du
très
jour,
beau.
Je crois.
Oui, mais c'est encore plus déconcertant que les deux autres livres, trouve. Parce que c'est aussi immédiatement séduisant. C'est vraiment très, très beau.
On a tous vécu ça aussi. On se projette.
Ouais, on sait pas. Exactement. On se projette, on sait pas ce que c'est. Et puis d'un coup, on s'est dit, mais oui, moi aussi, j'ai vu ces paysages par ces fenêtres, j'ai vu cette sortie de gare, j'ai vu ces trois paires de chaussures comme à un moment où je suis dans le train et où ma tête a penché. On est vraiment dans cette idée de l'observation de détails qui d'un coup prennent toute l'ampleur qui s'oublient et qui passent comme ça, et puis vous passez à autre chose, etc. etc. Ce n'est presque même plus un passage dans le train, c'est vraiment un passage dans le rêve et dans ce qui vous reste d'un voyage.
Victor Massé de l'Épinay.
Oui, je suis d'accord avec Joseph. En effet, c'est, je ne sais pas si c'est un disque. Si c'est un disque, c'est une sorte de concept album, en effet, où est-ce que ça fait séquence ou pas? On se pose cette question.
Ça m'intéresse, cette histoire de séquence, là, tous les deux, vous l'avez employé.
Parce que 2042, ex-2024, c'est un éditeur de bande dessinée. Ouais. Nous, alors, on est dans une table ronde, normalement, bande dessinée, et on se dit, est-ce que c'est une bande dessinée? Ce qui fait la bande dessinée, il y a plusieurs définitions, mais c'est à partir du moment où deux images produisent un sens, entre les images, produisent une narration.
Est-ce que vous imaginez entre deux cases?
Est-ce qu'on imagine entre deux cases? Là, on a des dessins uniques qui s'enchaînent les uns les autres, comme des titres d'un album. Et pourquoi je dis concept album? Parce que les concept albums, quand on les écoute dans l'ordre et en entier, on peut percevoir, on peut comprendre quelquefois une histoire et quelquefois comprendre pourquoi ça fait un tout. Mmh. Mais chaque dessin peut être regardé pour lui-même. Donc ça tient aussi du catalogue d'exposition.
Oui.
Et d'ailleurs, Yann Kebi a fait tous ses dessins presque au format d'une fenêtre de train, en gros 1m10 par 60 cm ou quelque chose comme ça, donc c'est très grand. Et on imagine bien que ça va être exposé. C'est des dessins donc très grands, à la plume, pour tous ceux qui sont en noir et blanc. Donc il y a quelque chose de très presque contre-intuitif, parce que c'est des hachures et des noirs profonds, mais tracés entièrement, tramés à la plume. Donc... Moi, vous avez évoqué le titre. Moi, j'aime bien ce titre parce que je me suis beaucoup posé la question. D'abord, moi, on m'a toujours appris que On est un prénom malhonnête. Et donc, qui est On?
Oui.
J'aime bien le train car on a le temps de regarder. Mais qui regarde, en fait? Parce que Yann Kebi, il ne dessine pas ce qu'il regarde au moment où il le regarde. Je me suis dit, on pourrait aussi dire j'aime pas le train parce qu'on n'a pas le temps de dessiner. On n'a pas le temps de voir ce qu'on voit à l'extérieur. Et puis en fait, j'aime bien le dessin, parce qu'on a le temps de regarder. Et moi, c'est plutôt ça que ça m'a fait ce livre, c'est que en dessinant ce qu'on a déjà vu, ils nous permettent de le regarder, et de regarder un espèce de palimpseste de choses qui sont de la mémoire, en effet, du rêve, de la divination, quelque part, parce que dès le deuxième ou troisième dessin, on voit une vue par la fenêtre d'un train, donc d'un immeuble. Cet immeuble n'a pas été vu tel quel dans un moment. Dans chaque fenêtre, il y a quelqu'un, un homme tout nu qui prend sa douche. Bon, c'est des choses qu'on a peut-être déjà vues, mais qu'on voit pas quand on prend le train systématiquement. Quand on habite en face d'une voie ferrée, on prend pas sa douche tout nu sans rideau devant la fenêtre.
Je ne suis pas sûr.
Je sais pas.
On ne sait pas, Victor.
Oui, oui.
Joseph.
On se demande si c'est de la restitution de photographie, par exemple.
Oui, moi je me suis posé la question.
On se demande s'il a tout pris en photo et puis qu'il restitue des choses. Ça ressemble un peu aux photos qu'on pourrait faire en se baladant comme ça, enfin en étant dans un train, sans faire attention. Ce qui est intéressant, c'est déjà il y a une diversité de techniques. Il y en a au moins deux. Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il y a des choses comme ça qui passent vraiment dans plusieurs formes. Mm-hmm. Donc ça donne au livre une forme de diversité, comme une diversité qui pourrait effectivement être un peu comme dans un album ou comme dans un rêve. Ce qui est assez fort, c'est que je trouve que c'est un livre qui est entre deux territoires. Ça aurait pu être un livre d'artiste. Mais le fait qu'il y ait séquence, c'est-à-dire qu'il y ait un déplacement des images, déplacement du regard, un déplacement qui a l'air assez contrôlé, ça en fait quelque chose de l'ordre de la bande dessinée, en tout cas presque du roman graphique muet. On pourrait être dans un roman qui consisterait à raconter un déplacement dans un train, ou le déplacement d'un train. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un livre qui est au milieu de quelque chose, mais malgré ce milieu qui pourrait être très flou, et au contraire, très affirmé, ne serait-ce que par sa couverture et par son format, qui dit « Regardez-moi ».
J'aime bien le train, on a le temps de regarder, de Yann Kebi, Victor Massé de l'Épinay, Joseph Gosse, merci beaucoup d'être venu dans les Midi de Culture. Je précise que Yann Kebi était l'invité Nicolas Herbeau dans les matins du samedi. L'entretien est disponible en podcast et sur le site de France Culture. Vous qui nous écoutez maintenant, à vous de vous faire une idée.